Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
On le sait, le polar a acquis ses lettres de noblesse et ne fait plus partie de la littérature dite de gare. Il faut dire qu'à l'instar des romans de Georges Simenon, beaucoup s'appuient sur de solides études psychologiques et sociologiques, sans négliger toutefois la trame policière. C'est le cas de ce roman qui va bien au-delà d'une enquête passionnante au demeurant pour recréer un monde, celui des humains, le nôtre. Voici donc « Tuer le fils », ouvrage édité chez la Manufacture des Livres, je ne me trompe pas. Et j'ai le grand plaisir de recevoir son auteur, Benoît Sévrac. Benoît Sévrac, bonjour.
Bonjour.
Voilà, vous êtes venu pour la première fois dans cette émission en 2007 pour Les Chevelus, roman passionnant que vous situiez dans la cité romaine au pied de Saint-Bertrand de Comminges. Et puis il y a eu Rendez-vous au 10 avril où l'intrigue se déroulait dans l'ancienne école vétérinaire de Toulouse après la Première Guerre mondiale, et puis suivi d'autres romans tous couronnés de prix. Alors, quels éléments déclenchants vous ont poussé à l'écriture déjà ?
L'écriture en général ?
Oui, en général d'abord.
En général. C'est une vaste question. C'est très compliqué de répondre à cette question parce que ça remonte à l'enfance. Hein,
Déjà enfant ?
Oui. J'écrivais déjà tout petit, 8, 9 ans, 10 ans, j'écrivais. À 10 ans, je fabriquais mes premiers romans que je perforais. C'était des feuilles que je perforais moi-même. Je faisais des...
Que vous avez gardé,
non,
j'espère.
Non, aucune trace de ça, ouais.
Vous rendez compte quand on fera des expositions pour vous, tant vos pis. Enfants ?
Mais les gens écouteront mes émissions radio présence.
Voilà.
Ça remonte à loin. C'est une envie surtout d'être un raconteur d'histoire et parce que je crois qu'au départ j'aime beaucoup qu'on me raconte des histoires. C'est un plaisir que j'ai eu envie de. Après en avoir bénéficié moi, j'ai voulu continuer à passer ce flambeau-là et être celui qui raconte des histoires. C'est essentiellement ça.
Alors pourquoi le polar ?
Alors ça aussi, c'est une question à laquelle il m'est compliqué de répondre, parce qu'il n'y a pas de choix. Et c'est pas sciemment, je ne me suis pas dit un jour, tiens, je vais écrire un polar parce que pour telle ou telle raison rationnelle ou même éditoriale, parce que souvent on se dit, ah, le polar marche mieux que les romans de littérature générale. Oui. Bon, ce qui est faux aujourd'hui, mais ça s'impose à moi. Et d'ailleurs, je me définis plus comme un auteur de romans noirs que de romans policiers purs. Et oui. Donc, en ce sens que l'enquête importe moins que
l'environnement.
Voilà, ce que vous étiez en train de dire en introduction, à savoir l'environnement psychologique et sociologique. Oui. Et ça, je le retrouve déjà dans mes plaisirs de lecture, mais déjà jeune aussi. C'est-à-dire que j'étais collégien, j'étais un fan de Balzac. Balzac, oui. Pour moi, c'est du noir. Si on relit Les Misérables à travers le prisme du genre roman policier, on est dans du polar et du roman noir.
Alors oui, justement, maintenant on a tendance à confondre polar et roman noir. Tout se rassemble. Hein.
Oui, parce que bon, ce qui est bien, c'est que les frontières sont de plus en plus poreuses et finalement, peu importe l'étiquette, les gens s'autorisent de tout. Les auteurs, c'est pas parce qu'ils sont dans une collection noire qu'ils vont s'interdire d'écrire de la blanche, finalement, ou dans une collection polar pure qu'ils vont s'interdire un détour par le thriller. Pour moi, il y a trois grandes familles. Il y a vraiment le roman d'enquête. Alors, trois grandes familles, on est d'accord. Après, elles s'hybrident, quoi. Mm-hmm. Elles se mélangent, elles se croisent, c'est ce qui est intéressant. Mais disons, les trois grands genres de base sont pour moi l'enquête policière pure, où l'enquête est l'intérêt central du roman, avec éventuellement un environnement sociologique ou psychologique, mais qui n'est qu'un prétexte, finalement, à une enquête policière. Il y a ensuite l'inverse, qui est le roman noir, pour moi, dans le sens où on se sert d'une enquête policière qui n'est qu'un prétexte pour, finalement, parler d'un contexte sociologique ou psychologique. Et là, on s'intéresse davantage à pourquoi le crime a été commis, tout ce qui est déterminisme social, tout ce qui est libre arbitre, l'inné, l'acquis, toutes ces questions-là.
C'est plutôt votre tendance.
C'est plutôt ma tendance, oui. Et là, on peut aller jusqu'à ne pas avoir d'enquête. Ça arrive, hein, et on tombe dans des romans noirs tels qu'on l'a vu, notamment à la manufacture de livres, dans des contextes même ruraux, où on s'éloigne de la ville, qui est un terrain de jeu habituel de l'enquête. Là, on peut s'éloigner de tout ça, on peut ne pas avoir d'enquête. On peut juste avoir quelqu'un qui enquête sur lui-même. L'enquête existentielle.
Oui.
C'est vraiment un peu tirer les cheveux, enfin, tirer les choses par les cheveux, mais pourquoi pas, on peut s'autoriser ça. Et le troisième grand genre, pour moi, et le thriller qui lui a une autre fonction qui est un peu celle des contes d'autrefois, où là on fantasme le crime, on est dans un crime fantasmé, on s'amuse à se faire peur ou à faire peur au lecteur, mais on est pour moi dans une dynamique complètement différente et même dans un rôle social différent.
Est-ce que vous pensez à des livres scandinaves quand vous parlez des thrillers?
Même en France, on a des gens comme Maxime Chattam, Franck Tilliez, Bernard Minier, qui font très bien ce travail-là. Mais moi, c'est pas mon genre de prédilection en tant qu'écrivain, mais en tant que lecteur, je suis toujours impressionné et admiratif de ça. Mais là, moi, c'est pas ça que j'ai envie d'écrire. Là, on est encore une fois, on est plutôt dans le serial killer. On s'intéresse à la psychologie d'un tueur. Il y a un côté analyse de la folie. Il y a un côté fascination un petit peu pour le crime. Mais on est dans le fantasme parce que finalement, quand on réfléchit bien, en France notamment, on n'a pas tellement de portraits de tueurs en série. C'est très rare.
Oui.
On en a eu, mais c'est très rare. Et cette espèce d'attachement au tueur qui va kidnapper des petites filles, les attacher au fond de la cave et les découper en morceaux.
Oui.
Moi, c'est pas ma tasse de thé.
Oui.
Mais je dénigre pas ça, hein, loin de là.
Alors, est-ce que, Benoît Sévrac, est-ce que vous pouvez me dire comment vous travaillez? On arrivera à votre livre, n'ayez crainte. Moi, j'aimerais savoir si vous préparez tout en amont, si vous avez des fiches, un plan bien établi, ou c'est un peu au fil de la plume, si à un moment donné vous voyez l'intérêt d'introduire un autre personnage, par exemple. Comment ça se travaille?
Alors, il y a énormément de préparation, mais pas celle à laquelle vous pensez, ou en tout cas que vous évoquez à l'instant. C'est-à-dire que la préparation, en amont, c'est de la documentation. C'est beaucoup de travail de terrain, même. C'est-à-dire que je vais à la rencontre des gens pour les gens dont je vais parler.
Il y en a, visiblement, on en parlera d'ailleurs, il y en a que vous connaissez bien, puisque vous avez animé un atelier d'écriture.
Oui, mais alors attention, là par contre, il faut faire le distinguo entre travail de documentation pour moi, c'est-à-dire pour créer mon univers respectueux de la véracité des gens et de la réalité de leur vie, mais en même temps, je m'interdis de reproduire la vie de quelqu'un en particulier.
Oui,
je m'interdis que...
Bien
enfin,
sûr.
Je ne veux absolument pas que les gens puissent se reconnaître.
Oui, oui, oui.
Donc personne dans ce roman ne peut se reconnaître parce que ce sont des composites. Mais on est d'accord. Je connais bien. Je me suis plongé dans l'univers carcéral notamment, puisque pour mettre en scène ce personnage d'auteur, d'écrivain qui anime un atelier de prison, un atelier d'écriture en prison, je me suis mis dans cette position-là pour me documenter, mais il faut faire très attention à ça. C'est uniquement pour appréhender un milieu, appréhender une documentation de façon à créer moi-même mon univers ensuite. Mais après, il y a beaucoup de travail de documentation et de réflexion en amont.
Il n'y a pas une structure.
Non, c'est-à-dire ça de moins en moins.
Ah,
c'est-à-dire
oui
que plus ça va, plus je me lance dans l'écriture, dans l'acte d'écrire, qui est pour moi la deuxième phase.
Sans savoir où vous allez exactement.
Je sais grosso modo où je vais aller. J'ai une ligne directrice. Mais oui, je m'interdis rien. Enfin, je m'autorise l'invention de personnages en cours de route, comme vous le suggériez. Et surtout, il faut que l'acte de création continue pendant l'écriture. Parce que finalement, à un moment donné, les personnages vont être si incarnés, tellement réels, avec leur propre logique, leur propre psychologie, c'est eux qui vont vous dicter des impératifs d'écriture. C'est eux qui vont vous dire « Non, mais là, moi, je ne peux pas faire ça, ce n'est pas possible. Il faut d'abord que j'ai fait ça avant. » Ou « Tiens, là, maintenant, ce serait logique que mon personnage est tellement... » est tellement dans cette psychologie-là que, de façon cohérente, il doit faire ça maintenant. Mmh. Bon, et ça, c'est...
Ça veut dire qu'il faut être dans le bain, finalement.
Ah, il faut être en empathie totale avec les personnages. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Mais y a, voilà, il peut y avoir 1 an, 2 ans de réflexion avant d'écrire quoi que ce soit. Ça, c'est important. Je veux me laisser le temps de me documenter et surtout de me questionner, même de faire vivre mes personnages dans ma tête. Mmh. Ce sont des choses que je n'écris pas, ça. Ce sont des choses auxquelles je pense tous les jours, de façon obsessionnelle, et je crée des personnages. Créer un personnage, ça veut dire lui trouver un nom, lui trouver...
Oui, on va en parler d'ailleurs.
Des préférences alimentaires, enfin de tout.
Les policiers sont vraiment des humains, on connaît leur milieu, on connaît leur famille. Effectivement, ils existent, ils sont de chair.
Hein. C'est ça, il faut qu'ils existent en moi avant de commencer à exister sur le papier, d'accord, pour qu'ensuite ils existent bien en vous aussi. Mmh. Et ça, c'est pour moi la clé de la réussite d'un roman. On peut commettre des erreurs sur l'intrigue. Je crois que les lecteurs vous pardonneront, mais on ne peut pas se tromper sur les personnages. Il faut être dans le vrai, là. Ça, c'est important, ça. C'est le contrat de lecture, finalement, ça.
Alors, il y a la construction aussi qui est intéressante dans cet ouvrage. C'est-à-dire que, d'une part, dès le prologue, on a, est-ce vrai ou pas, on a le coupable. Et puis après, il y a un retour en arrière. Et alors, cette alternance d'enquêtes menées tambour battant, pas vraiment, parce qu'ils travaillent, et cette alternance avec la lecture d'un journal écrit par le fils, on va en parler aussi, ça coupe, c'est très intéressant parce qu'en fait, on change totalement de milieu et de point de vue.
Oui, c'est ça. On appelle ça un procédé narratif. Oui. On est très content quand on trouve ça en tant qu'auteur. Moi, j'étais très, très, très fier de moi.
Vous avez raison.
Je savais que j'étais sur un bon coup là, avec ça. Ce coup-là, moi, voilà, c'est jouissif quand on arrive à trouver ce genre de procédé. Bon, ça vous tombe dessus parce que vous y réfléchissez depuis un moment et vous vous apercevez que oui, tiens, c'est un bon biais passé par le biais d'un cahier d'écriture écrit en prison. Oui, alors on peut... Ça m'évite une difficulté majeure, à savoir faire raconter tout ça par le personnage.
Oui.
Comment ne pas être lourd pour raconter des choses horribles qui touchent à l'enfance, qui touchent au crime que l'on a commis. Tout de suite, ça fait voyeur. Tout de suite, c'est compliqué à placer de façon naturelle. Alors que là, si je me dis, tiens, je me plonge dans le journal intime d'un tueur et d'un prisonnier, j'ai toute légitimité à le faire. Et ça accélère le processus et ça décale le point de vue narratif, effectivement. Donc, le ton n'est pas le même. La narration n'est pas la même, la focalisation n'est pas la même. C'est jouissif de s'amuser à ça. Hein.
Bien sûr. Alors, ce roman commence, donc, on expliquera le titre ultérieurement, « Tuer le fils », commence par un meurtre. Bon, nous sommes dans un roman noir, un roman policier. De qui s'agit-il ? Grosso modo, on racontera surtout pas la fin, bien entendu.
Non, mais on ne dévoile rien de l'intrigue en disant que tout commence par la sortie de prison d'un jeune homme. Il est encore jeune au moment où il sort de prison, après 12 ans de prison, d'un jeune homme qui a commis un crime qu'il a assumé, qu'il a vraiment commis. Donc il a assumé, il a été condamné pour cela. C'était un crime homophobe. Horrible. Et il a eu 12 ans pour réfléchir à ses actes, 12 ans pour comprendre que s'il a commis ce crime-là, c'était à cause de son père, pour prouver quelque chose à son père, qui l'a humilié toute sa vie. Là aussi, je dévoile rien.
On parlera justement du regard que vous portez sur l'éducation, d'accord, sur le rôle du père.
Oui, parce que c'est le sujet central, finalement,
c'est le sujet central,
du
roman. Mais je vais vous dire, moi, ce qui m'a très intéressé, c'est l'équipe de policiers également.
Alors voilà. Alors, je finis juste sur... Oui. Il sort de prison le lendemain de sa libération. Son père est assassiné, donc tout porte à croire que c'est lui qui a commis le crime. Bon, c'est plus compliqué que cela, et les policiers vont devoir se pencher à travers la lecture notamment du cahier d'écriture du jeune homme sur la relation père-fils. Voilà. Bon, pour démêler tout ça. Oui, on a une relation délétère père-fils d'un côté, et oui, comme vous le faites remarquer, il y a la relation lumineuse père-fils aussi entre les flics. C'est-à-dire qu'il y a le chef de groupe et le jeuneau qui vient de rentrer dans la brigade.
Il y a trois membres qui, dans le fond, qui sont sympathiques, et puis avec leurs faiblesses, leurs déceptions, les difficultés des policiers que vous mentionnez bien hein, aussi. Mais justement, ce que vous dites, qui est très intéressant, c'est que dans le fond, Cérizol, qui est le chef du groupe, de ce trio, et qui n'aura pas d'enfant, puisque sa femme n'en veut pas pour des raisons tout à fait légitimes, Cérizol dit, voit en ce garçon, sans doute, un héritier, entre guillemets. Mais il n'y a pas que ça, d'ailleurs. Il n'y a pas que ça, je trouve. Il y a également... aussi, vous abordez beaucoup de problèmes. En dehors, je peux revenir juste un petit peu en arrière, parce que je pensais également que vous nous faites entrer également, par le biais du père du défunt, celui qui a été tué, dans différents milieux. Ce sont des petites touches, mais c'est éclairant, le milieu des Albanais, le milieu des motards. Ça m'a fait rire parce que j'ai cru comprendre que vous étiez motard vous-même.
Oui, ouais, qui aime bien, châtie bien. Ouais,
oui, mais je sais que parfois, il y a des déviants. Le milieu donc des néo-nazis aussi, enfin bon, un monde de violence et d'hyper-virilité, si on peut appeler ça virilité. Et ça, on entre également dans ce milieu.
Oui, je crois que j'ai vraiment voulu tourner autour de la question de la masculinité dans ce roman.
Oui,
c'est un roman d'hommes, il y a énormément d'hommes, il n'y a qu'une femme, mais quelle femme ?
On parlera aussi du regard que vous portez sur les femmes, parce qu'il y a la femme de Cérizola, on en parlera, et puis également les propos de ce dernier quant aux femmes et à leur intuition. Entre autres, on parle de l'intuition féminine, vous allez me dire c'est banal, mais enfin, quand il conseille son collègue portugais.
Mais en fait, les femmes ont souvent un rôle important dans mes romans, finalement. Là, ici, elle est un peu plus en retrait, la femme de Cérizol, mais c'est elle qui amène un contrepoint primordial dans l'enquête même. Elle a un rôle à jouer dans l'enquête et surtout, elle équilibre son homme et elle apporte un contrepoint qui est important. Mais de la même façon que les flics, ce trio attachant, très attachant, là, il y a beaucoup d'affect qui passe là-dedans. J'avais besoin de ce trio-là aussi pour pas faire non plus un roman noir désespéré, quoi. Roman noir dur pour certains aspects, mais très, très marrant, j'espère, par d'autres aspects.
Parce qu'il y a... Il est évident qu'il y a une complicité déjà entre les deux aînés, ils travaillent ensemble, il y a un soutien, une entraide, ils se font confiance, mais également, alors avec le jeune, bardé de diplômes, qui n'a pas trouvé de travail, et qui arrive un peu flambant, et qui provoque un peu l'irritation des deux anciens dans un premier temps. Alors là aussi, on peut parler aussi de ce que l'on peut voir ailleurs, d'ailleurs, cette césure entre la culture et ceux qui n'en ont pas forcément, qui sont intelligents, mais qui n'ont pas la même culture.
Oui, je crois que ça correspond à une réalité dans la police aujourd'hui. Pas que dans la police, mais les surdiplômés, quoi, qui arrivent jeunes dans des milieux où les gens se sont faits sur le tas. Et oui, il peut y avoir cet affrontement, entre guillemets. Moi, je pense que c'est complémentaire, hein, de connaissance du terrain et connaissance livresque, on va dire. Mais je crois que je décris une situation assez courante aujourd'hui dans le monde de l'entreprise en général. Ouais.
Je crois. Vous parlez également, évidemment, des conditions difficiles. Et d'ailleurs... nous avons parlé de Cérizol, mais il y a également Gros-Pierre, donc Nicodémo, ouais. Qui lui est peut-être dans une période un peu dépressive. Et c'est effectivement, je pense qu'il y a, on le dit en tout cas à la radio, à la télévision, il y a beaucoup de dépression chez les policiers.
Oui, c'est comme d'habitude. Tous mes personnages, il faut nuancer les personnages. Je déteste.
Ils sont tous très nuancés.
Je n'aime pas le manichéisme avec d'un côté les bons flics qui sauvent la veuve et l'orphelin ou les méchants flics qui sont alcoolos et qui tapent sur les jeunes. Les policiers sont très nombreux. Il y a autant de policiers. Ou de caractère ou de personnalité qu'il y a de policiers. C'est la même chose pour les enseignants, c'est la même chose pour les artisans, c'est la même chose pour... Même les truands. C'est-à-dire que je n'aime pas présenter une vision manichéenne de mes personnages. Donc je suis tout le temps en train de nuancer. C'est très difficile à faire parce que il faut pas non plus tomber dans l'angélisme. Il faut être capable de dire que tout le monde est magnifique, mais à un moment donné, tout le monde peut être moche. Et là,
ils ne le sont pas quand même.
Moche, non.
Non.
Magnifique non plus, ils sont un peu minables. Ils sont
un peu minables
aussi par moments. Mais comme nous tous, quoi, il y a des moments
voilà,
où.
Ce ne sont pas des gros bras, ce ne sont pas des. Effectivement, bon, ce n'est pas les policiers que l'on voit dans les séries américaines, c'est
non,
sûr.
Non, mais il faut vraiment qu'on arrive à. Alors c'est vrai qu'il faut qu'on se détache des images caricaturales, quoi. Et c'est vrai que les médias. Parce que les flics que l'on voit dans les médias, ce sont des flics que l'on voit dans les manifs. On ne voit jamais les flics qui travaillent sur des dossiers qui consistent vraiment à protéger des enfants, à protéger des femmes battues, à protéger des faibles.
Oui.
C'est ça le but de la police et de la justice aussi. C'est sans droit, c'est la loi du plus fort. Et ces gens-là rentrent chez eux, ont des familles, ont des préoccupations, ont des enfants qui ont des mauvaises notes, et qui, ils s'inquiètent pour leurs gamins,
pour
etc.
Leur fils,
c'est tout. C'est,
oui, oui.
C'est des gens comme on est tous.
Qui ont des problèmes de santé à un moment donné.
Exactement, voilà. C'est,
oui, oui.
Donc ça, il faut aussi savoir le présenter. J'ai pas envie de dire que tous les policiers sont des gentils agneaux. C'est pas ça. J'ai été étudiant et je vois ce que c'est une charge de CRS. Mais on est dans des contextes quand même très particuliers qui sont une charge de CRS.
Oui.
La plupart des policiers ne touchent jamais leur arme. Ils ne sont jamais confrontés à ce genre de choses-là. Oui. Il y a plein qui travaillent sur des dossiers très administratifs.
Oui.
Faut en parler aussi, ouais.
Oui, bien sûr. Bon, le patron s'est isolé à un moment donné, au début, hein, j'ai lu ça, il pense à ce garçon qui sort de prison, un pauvre gosse maltraité. Il comprend quand même, comme vous dites, ils ne sont pas tous comme ça, mais en même temps, en règle générale, ils aiment ce qu'ils font et puis ils font ce qu'ils font. Ils essaient de faire le mieux possible.
Oui, je ne pense pas qu'on puisse se réjouir de voir un jeune commettre un crime comme ça. On ne peut pas se réjouir d'arrêter quelqu'un. Je pense que forcément, on a une déception de voir qu'une nouvelle fois, l'être humain peut amener à ce genre de comportement. Je pense qu'il y a beaucoup de dépression chez les flics, oui.
Ah oui, mais, on dit,
hein. Mais malheureusement, je crois qu'il y a beaucoup de dépression tout court dans notre société aujourd'hui. Il y a quand même beaucoup de choses avec lesquelles on a du mal à faire face, auxquelles on a du mal à faire face.
Mmh. Mmh. Oui, mais d'après les chiffres, ce que j'ai vu, moi, c'est quand même, ils sont dans le haut du panier, si j'ose dire.
Oui, il y a beaucoup de professions exposées comme ça. Les policiers en sont.
Oui. D'ailleurs, à un moment donné, vous dites, machinalement, Cérizol s'assura que l'arme de service de son partenaire n'était pas sortie. Il avait connu plusieurs suicides au cours de sa carrière, des collègues plus ou moins proches, etc. Oui, et donc, ils se surveillent aussi mutuellement.
Oui, c'est une vraie attitude de flic aussi. Je connais des policiers, et pour en avoir discuté avec eux, ça reste à leur esprit. Ils ont tous un collègue qui s'est suicidé à un moment donné. Bon, c'est vrai que les flics sont plus exposés au stress, etc., que d'autres professions.
À la violence.
Mais les policiers ont aussi des armes. Et c'est ce qui fait qu'ils se suicident aussi de façon plus efficace. Les tentatives de suicide sont réussies plus facilement.
Ils n'ont pas besoin de chercher une arme.
Voilà. De la même façon, certaines professions comme les vétérinaires, que je connais bien aussi, se suicident beaucoup parce qu'ils sont soumis à énormément de stress, mais surtout, ils ont le savoir et les produits pour se suicider.
Oui.
Le passage à l'acte est rarement raté, quoi, malheureusement.
Voilà. Alors donc, et puis, donc, il y a des moments de complicité, des moments d'agacement. C'est pour ça, je les trouve très humains en lisant, des moments, des fous rires, parfois aux dépens de l'un d'entre eux, hein, c'est en alternance. Et Gros Pierre, donc le jeune diplômé, est un peu agacé parce qu'il sent qu'il y a une complicité et il ne comprend pas que les autres se moquent plus ou moins de son langage. Et on imagine très bien ce qui peut se passer. Voilà. Alors, à un moment donné, vous dites « flics et criminels ont en commun solitude et désillusion ».
Oui, ça c'était... c'est cette scène dans laquelle on... Oui, j'ai repensé à beaucoup de films, là, j'ai repensé à beaucoup de romans dans lesquels on voit finalement la solitude. Ben, je pense même à Garde à vue avec Céro et Lino Ventura, où finalement, voilà, on est tous les deux dans le même bureau, On est chacun d'un côté de la barrière, mais on partage cette solitude et cette désillusion aussi. Malgré tout, il y a un job à faire.
Et puis, parce qu'on est en contact avec la partie la plus moche de l'humanité, quand même.
Oui, hein. je crois qu'être flic, dans certaines conditions et sur certains postes, c'est faire des tas de choses que nous, citoyens lambda, ne voulons pas voir.
On leur délègue ça.
Ouais. Et nous, on dort à ce moment-là.
Absolument.
On dort, on est tranquillement installés chez nous. Ouais. Et eux doivent gérer toutes les choses, la lie de la société.
Oui.
Quoi. Enfin, je ne parle pas des gens, mais les affaires sales, tout le linge sale, c'est eux qui se le tapent. Quoi. Et je crois que ça déforme. Il arrive un moment où on ne peut plus voir. Moi, j'ai beaucoup de connaissances parmi les policiers où on n'est pas d'accord sur l'interprétation de la société, on n'est pas d'accord sur l'attitude à avoir, alors, pessimiste ou optimiste ou lucide, à avoir dans la vie, mais parce que eux me disent tout le temps tu ne vois pas, tu es naïf, tu ne vois pas ce qui se passe réellement, mais moi je leur dis vous êtes plus assez naïf, quoi. C'est-à-dire vous ne voyez plus que ce qui ne va pas, et il arrive un moment où ça déforme la vision des choses. Ça ne veut pas dire que cette vision-là est plus lucide.
L'actualité nous remet en question exactement ce problème.
Oui, mais je crois que l'actualité à haute dose nous déforme la réalité aussi. On ne voit plus que ce qui ne va pas. Oui. Je crois qu'on oublie de voir ce qui va aussi. Et il y a plein de choses qui vont bien aussi. J'essaie d'y croire, j'essaie de m'y raccrocher. Parce que, je crois que c'est des attitudes des attitudes de vie, mais c'est aussi une mise en perspective. Il faut relativiser.
Il ne suffit pas d'y croire, il faut agir pour que ça soit crédible.
Oui, mais peut-être qu'il faut varier les sources. C'est-à-dire que les sources d'information sont une chose, mais en boucle, les faits divers en boucle, on devient fou. C'est anxiogène. Alors peut-être que oui, il faudrait varier nos sources, non pas d'information, parce que l'information, mais nos sources d'inspiration. Il faudrait peut-être aller lire des choses inspirantes.
Oui, il faut lire des choses inspirantes dans tous les cas. Voilà, Benoît Sévérac, je vous propose une pause musicale et on la choisira parmi les goûts de cet inspecteur. Ah, on dit plus inspecteur, j'ai appris ça.
Ça n'existe plus.
Ça n'existe plus, voilà.
Là, il est commandant, mais il a le rôle d'enquêteur. Donc
d'accord, l'enquêteur, c'est Cérizol, donc. Et nous reprenons tout de suite après.
Un oranger sur le sol irlandais, on ne le verra jamais. Un jour de neige embaumé de lilas, jamais on ne le verra. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Tu dors auprès de moi, près de la rivière où notre chaumière bat comme un cœur plein de joie. Un oranger sur le sol irlandais, on ne le verra jamais. Mais dans mes bras, quelqu'un d'autre que toi, jamais on ne le verra. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Tu dors auprès de moi. L'eau de la rivière fleure la bruyère et ton sommeil est à moi. Un oranger sur le sol irlandais, on ne le verra jamais. Un jour de neige embaumé de lilas, jamais mais on ne le verra. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Toi, mon enfant, tu es là.
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Voilà, je suis en compagnie de Benoît Séverac qui vient nous parler de son nouveau roman « Tuer le fils » paru aux éditions La Manufacture des Livres. « Tuer le fils » qui a l'air de plaire beaucoup à vos lecteurs. J'en ai eu des échos par l'extérieur simplement. On m'a parlé de votre ouvrage. Alors évidemment, vous êtes Toulousain, donc les Toulousains vous connaissent, mais maintenant, il n'y a pas que Toulouse qui vous connaît. On revient donc à cette enquête qui est menée. Oui, on a parlé de Cérizol et du nouveau venu, et je me suis dit, oui, finalement, évidemment, le nouveau venu qui est un jeune diplômé remplit sans doute un manque chez Cérizol qui n'a pas d'enfant et qui n'en aura pas. Mais je me suis dit qu'il y a aussi l'idée de passation de pouvoir, oui, d'apprentissage et de passation de pouvoir. Ça doit exister aussi, ça, non, chez les policiers?
Oui, je pense que ça existe dans quasiment toutes les professions. Quand on aime son métier, on n'a pas envie de voir son travail d'une carrière disparaître. C'est ce qu'il y a de triste, je pense, dans les fermetures d'usines, dans les mises à la retraite un peu violentes, dans les plans sociaux. C'est pas que le problème économique, c'est tout le patrimoine, le savoir, ce patrimoine immatériel que l'on perd. Et je crois qu'on en est parfois conscient, d'où certains écomusées, d'où certaines activités que l'on reprend à titre pédagogique pour expliquer. On a envie de transmettre son métier. J'ai remarqué ça dans mon métier d'écrivain. Quand je me présente aux gens en disant « je suis écrivain, je voudrais que vous me parliez de votre métier », les gens sont toujours très, très ouverts à la question. Ils sont très désireux de partager leur savoir. Ils n'ont pas du tout envie que ça se perde.
Oui, oui. Alors moi, j'aimerais qu'on aborde un autre sujet inattendu. Pour moi, ça a été inattendu. C'est le regard que vous avez très positif, je dirais, sur l'épouse de Cérizol, et vous en parlez longuement. Et ça m'a d'autant plus intéressée que je connais bien le milieu, justement, le monde des aveugles, des malvoyants aussi, on dit. Et vous accordez beaucoup d'importance dans votre ouvrage, je trouve, à cette épouse. Pourquoi ce choix ?
Alors, le choix d'une épouse aveugle, sportive de haut niveau...
Oui.
Alors lui, il m'a été dicté par une rencontre. Alors, là, pour le coup, c'est quelqu'un qui peut se reconnaître. Et d'ailleurs, je lui ai demandé la permission avant de l'utiliser, entre guillemets. Et donc, je ne l'ai pas dissimulé derrière des couches de fiction. Elle est d'ailleurs remerciée en exergue du roman. Elle s'appelle Coralie Gonzalez. Elle est kiné à Toulouse. Elle est aveugle et sportive de haut niveau. Et elle est accompagnée de sa chienne Juke, dont j'ai gardé le prénom, pour le coup, dans le roman. Alors, ça, ce sont des personnages, des rencontres qui forcent l'admiration.
C'est une femme forte.
C'est une femme forte. C'est une femme, surtout, qui m'a signifié très rapidement que pas de commisération, s'il vous plaît. Oui. Surtout pas. Je ne suis pas handicapé, je suis aveugle.
Oui,
c'est une parole très forte que j'ai entendue aussi chez des sourds, me dire, mais on n'est pas handicapé, on est sourd. On a une autre langue, on signe. Mais on n'est pas différent, on n'est pas amoindri par rapport à vous. Souvent, on pense handicap égale à moindre, amoindrissement des capacités. Et finalement, les handicapés que je connais m'ont souvent démontré que c'était une définition qu'ils réfutaient. Et je pense que Pardon, je pense que le regard que nous portons dans cette société sur les handicapés me travaille depuis un bon moment déjà. Ce n'est pas le premier roman que je porte sur la question, le premier roman que je consacre à ça. Je crois que ça vient d'expériences très personnelles où j'ai été confronté dans ma famille au regard que l'on pouvait porter sur un frère autiste, des choses comme ça. Ça m'a choqué, ça m'a marqué, ça m'a meurtri et je crois que j'ai à cœur d'en parler dans mes romans. Après, il y a aussi l'idée que je crois que je suis quelqu'un qui n'a fait que des très belles rencontres féminines dans sa vie. Les femmes que j'ai rencontrées ont toujours été des femmes qui m'ont apporté énormément et qui m'ont fait progresser énormément. Alors, je suis pas en train de dire du tout, hein, la femme est l'avenir de l'homme
ou la femme est de MeToo.
Non, mais MeToo c'est autre chose pour moi. C'est une revendication légitime. Mais dire que les femmes sont meilleures que les hommes, ça, moi, j'y crois pas. Je n'y crois absolument pas. Je veux pas dire ça non plus parce que ce serait déjà du sexisme en soi. Mais par contre, il se trouve que moi, à titre individuel, je n'ai fait que des superbes rencontres de femmes qui m'ont fait progresser parce que je partais de loin. Je suis un pur produit d'une éducation macho. Je suis dans une génération qui aurait pu très bien partir dans un sens ou dans l'autre. Et j'ai remis énormément de codes de relations entre les hommes et les femmes en question grâce aux femmes que j'ai rencontrées. Donc je pense que c'est tout naturellement que pour moi, dans mes romans, je présente des femmes fortes et très positives dans les apports qu'elles peuvent avoir sur un homme. Quoi.
Alors, nous allons faire plaisir à cette personne. Est-ce que vous acceptez de lire un extrait qui parle d'elle ?
Oui, bien sûr. Apprendre à obéir faisait partie de l'éducation d'un chien d'aveugle, même rompu à ses fonctions. Mais à 4 heures du matin, la volonté s'émousse et Sylvia n'était pas mécontente d'avoir un peu de compagnie. Elle se pencha vers sa chienne et l'enlaça. Juke lui rendit son étreinte en enfouissant son museau sous les aisselles de sa maîtresse. Puis, elle la suivit à la trace alors qu'elle mettait de l'eau à bouillir et se préparait un thé. Sylvia vérifia qu'elle avait choisi la bonne boîte en humant son contenu. Thé noir à la bergamote, parfait pour commencer une journée trop tôt. Ses insomnies étaient amères, car Sylvia n'y perdait pas seulement ses journées, préemptées par la fatigue qui en découlait, elle y perdait ses rêves. Or, il n'y avait que dans ses rêves qu'elle voyait. Cruauté réservée à ceux qui sont devenus aveugles après avoir joui de tous leurs sens jusqu'à un âge avancé, les souvenirs des formes et des couleurs se bousculaient derrière ses pupilles mortes. Dans la journée, ils assaillaient Sylvia, lui faisaient sentir le manque. La nuit, elle les choisissait et jouait avec eux. La nuit, elle partait en Touraine où elle avait grandi. Elle admirait les ondulations des blés sous les coups du vent. Elle s'amusait de voir le sol se dérober et se rapprocher alors qu'elle se propulsait sur la balançoire du jardin public. Elle plongeait dans le regard de Jean-Pierre, éternellement jeune. Elle s'octroyait le luxe de fermer les yeux pour se protéger de trop de lumière du soleil. Là, dans cette réalité parallèle, qu'elle nommait désormais le vrai lieu, elle pouvait continuer à se fabriquer des souvenirs, alors que depuis plusieurs années, depuis qu'elle était plongée dans une obscurité totale, Sylvia avait le sentiment que le temps, au moment où la lumière s'était éteinte, avait pris fin. Son album de photos familiales s'arrêtait l'année de ses 30 ans. Après son enfance, son adolescence et ses premières années de femme, c'était le vide. Son propre reflet dans le miroir de la salle de bain était celui d'une jeune femme dont les traits ne seraient jamais altérés par les rides et l'affaissement des chairs. Heureusement, il y avait la nuit, cette toile où les monstres les plus vils peuvent apparaître, mais qui se pare des couleurs les plus vives quand on le désire fortement. La nuit, Sylvia revivait, elle reprenait le fil de son existence et de ses souvenirs, mais ses phases de sommeil ne duraient jamais très longtemps et un immense désarroi la saisissait chaque fois qu'elle en sortait.
Très beau portrait de femme, très beau, très belle évocation d'une personne à laquelle, une personne forte, à laquelle souvent se réfère Cérizol. Finalement, c'est elle l'élément fort aussi qui la le soutient.
Oui, et qui elle-même ses failles, ses faiblesses. Mais...
Oui.
Mais enfin, ses failles, et ce qui fait...
Et il se fie à son regard, si j'ose dire. Ouais, elle a un regard, une façon d'envisager les choses qui lui apporte beaucoup.
Oui, il y a beaucoup d'amour entre eux et beaucoup de confiance. Et donc, ça fait partie de ces relations, de ces belles relations dans lesquelles on peut être soi, on peut avoir ses failles sans avoir... Ouais. Peur que ce soit des faiblesses, parce que ça n'en est pas. Ça, c'est ce qui nous rend fort. Je pense que les gens les plus forts sont les gens qui admettent leur faiblesses et qui n'ont pas de problème avec ça. Et tous les deux, Cérizol et son épouse Sylvia, et ils sont magnifiques pour ça.
Absolument,
il y a énormément de tolérance voilà, de l'un pour l'autre. Et oui, elle apporte beaucoup de choses à son métier même, à son métier.
Alors, revenons à l'enquête. Elle semble aller vite, mais apparaît le fils. Donc, alors, vous l'avez dit tout à l'heure, il sort de prison où il a purgé une peine pour meurtre, on va le savoir, et il participe à un atelier d'écriture animé par un romancier. Alors, évidemment, bon, on sourit parce que vous êtes romancier vous-même et vous avez animé des ateliers d'écriture. Donc, vous êtes entré dans ce milieu carcéral que vous décrivez à travers, justement, les pages de ce garçon. Donc, vous le décrivez.
Oui, j'ai animé un atelier d'écriture au centre de détention de Muret en 2017. Qui a duré longtemps, duré plusieurs mois, c'était dans le cadre du marathon des mots. Donc il y a eu le temps, j'ai eu le temps d'instaurer une relation de confiance avec les détenus qui participaient à l'atelier, affectueuse. Il y avait véritablement des liens se sont créés. Ça m'a marqué, et surtout ce qui m'a marqué, c'est leurs écrits.
Attendez, vous dites des liens se sont créés. Est-ce que tous ont adhéré sans difficulté? Comment? Parce que là, vous décrivez, il y en a qui abandonnent. Comment ça se passe en général?
Non, alors déjà, ce sont des gens qui sont volontaires.
Oui.
Donc, bon, le taux d'abandon est faible dans la mesure où ils savent pourquoi ils sont là. Il y avait évidemment sur un atelier, sur 12 personnes, il y en a toujours un ou deux qui décrochent. Ça arrive, ça c'est le taux habituel, on va dire. Mais non, moi, ça a surtout été... une expérience forte pour moi, parce que j'ai réalisé une chose, c'est que un lieu de privation de liberté, c'est avant tout un lieu de privation de liberté de parole.
Bravo à l'écriture.
Pardon ?
Parce que l'écriture permet de mettre des mots sur les souffrances.
Oui, même l'écriture en prison est autorisée, mais elle ne peut pas sortir.
Oui, alors c'est ce que j'ai appris dans votre ouvrage.
On ne s'imagine pas à quel point... on imagine ce que la privation de liberté de mouvement peut donner, mais la privation de liberté de parole, c'est dur. Quoi. Enfin, je ne suis pas en train de contester, mais c'est une évidence. Oui. Ils sont privés de parole, ok, mais ils n'ont pas le droit de s'exprimer comme ils le souhaitent dans les médias, ils ne peuvent pas s'exprimer en dehors, ils ne peuvent pas téléphoner, ils ne peuvent pas écrire ce qu'ils veulent, ils ne peuvent pas publier ce qu'ils ont écrit en prison. Il y a une censure, et donc ça fait que l'atelier d'écriture, qui était un espace justement de non-censure pendant 2 heures tous les mois, dans un cadre où il n'y avait personne pour les surveiller, il n'y avait pas de surveillant, il n'y avait que moi, et qui ai pris le parti pris d'entrée.
Il n'y avait que vous, donc, avec des gens qui sont quand même des criminels.
Oui, mais
on oublie ça.
Complètement.
Oui,
c'est vrai que je ne me suis pas posé la question une seule fois. D'abord parce que ce sont des criminels, mais pas des tueurs en série. Mmh. Ce ne sont pas des gens qui ont intérêt et qui n'ont même pas envie de commettre un crime contre moi.
Oui.
C'est ça qu'on a du mal à appréhender. Ces gens-là ont commis un crime, certes, ils sont en prison pour ça, certes, mais alors je vais peut-être dire quelque chose qui va faire bondir des tas de gens, mais si on les relâchait et qu'on les mettait dehors, ils sont rares à ceux qui récidiveraient. Il y en a énormément qui ont compris que ce qu'ils ont fait, c'était pas bien, et voilà. Et donc je suis pas en train de vouloir faire la révolution dans le système carcéral, mais le fait est que moi je ne craignais absolument rien. Bon, après j'avais aussi quand même, mesure de sécurité oblige, j'avais un beeper qui faisait que s'il se passait quelque chose, j'appuyais sur un bouton et des surveillants arrivaient.
Mais alors, est-ce que
ça n'est jamais arrivé.
Est-ce que l'écriture est une manière quand même de mettre sur par écrit, est-ce qu'ils arrivent à exorciser certaines choses, quel est le bienfait que ça leur apporte?
Je ne sais pas. Mais il y a un bienfait dans la mesure où ils viennent et ils reviennent. Et surtout, ce qu'ils écrivent, c'est d'une force incroyable. Il y avait des choses magnifiques.
Et vous n'avez rien gardé ?
Non, je n'avais pas le droit. Pas le droit. Non, j'ai rien sorti. Il y a des choses.
Et c'est pas négociable avec le directeur, par exemple.
Non. Il y a des choses qui ont été publiées, par contre, mais sous le regard quand même de l'administration. Voilà. D'accord. Et ça a été publié dans le cadre du Marathon des mots, dans un livret qui accompagnait cette expérience-là. Mais tout n'a pas été publié. Oui. Non.
Alors il y a le rôle de l'animateur aussi qui est intéressant. C'est un auteur, un écrivain. C'est un écrivain. Il parle de la fiction, de l'autofiction, de la biographie. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Mais toutes les paroles qu'il donne, toutes les instructions qu'il donne, ce sont des instructions que j'ai données, ou que j'ai pu donner, ou que j'aurais pu donner. C'est-à-dire que, évidemment, j'ai joué là un jeu un peu ambigu, parce que je passe mon temps à dire au lecteur, ne cherchez pas la part d'autobiographie dans mes romans. C'est une chimère, je ne suis nulle part et en même temps je suis partout. Mais là j'ai joué avec le feu, enfin c'est même pas jouer avec le feu, je tends un peu le bâton pour me faire battre.
Il y a une partie de vous là-dedans.
Oui, voilà, je me mets en scène. Alors on n'est pas dans de l'autofiction, parce que ce qui arrive à cet auteur ne m'est pas arrivé, et ce qu'il commet, ce qu'il fait, je ne l'ai pas fait. Donc c'est pas du tout moi. Mais oui, je joue avec vous, les lecteurs, en mettant en scène quelqu'un qui quand même ressemble beaucoup à moi et qui a une expérience en prison d'animation d'atelier d'écriture comme j'ai eu. Donc j'ai joué avec ça. Je crois que j'aurais pas fait ça il y a 10 ans ou il y a même 5 ans.
Pourquoi
il y a une prise de confiance en moi, un désir de une maîtrise de ça, parce que il faut faire très attention quand on fait ça, parce qu'il faut pas aller trop loin pour pas tomber dans l'autofiction justement dans quelque chose d'un peu caricatural ou d'un peu outrancier. Et en même temps, il faut y aller quand même. Il faut y aller assez.
Il faut arriver à maîtriser.
Oui, il faut en donner assez pour que ça ait du sens. C'est-à-dire que si c'est juste utiliser un auteur comme ça pour faire un clin d'œil au lecteur et jouer avec moi-même, non, ça n'a aucun intérêt. Il faut que ça aide. Il faut que ça revête un sens dans l'intrigue, dans le roman. Il faut que ça apporte quelque chose au roman. Oui. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, je ne le fais pas. Mais en même temps, il ne faut pas aller trop loin non plus pour ne pas qu'il y ait confusion possible avec moi. Quoi. Donc là, j'ai pu doser ça parce que je maîtrise mieux qu'il y a 10 ans, je pense, toutes ces choses-là. Ouais.
Alors évidemment, on va terminer par le nœud de l'affaire, finalement. C'est la relation entre le père et le fils. Le titre... Tuer le fils, parce que d'habitude on dit il faut tuer, sur le plan psychanalytique évidemment, il faut tuer le père. Là vous dites tuer le fils.
Oui, parce que j'aime bien renverser, ça c'est un peu moi, un peu ma logique de regard sur les choses ou sur les gens. J'aime bien faire un pas de travers, un écart un petit peu pour changer l'angle d'observation des choses. Et tuer le père, pour moi, c'est effectivement d'un point de vue freudien ou psychanalytique, on connaît tous l'expression, c'est vrai qu'il faut tuer le père pour s'émanciper, pour grandir, se construire et devenir un homme, ou tuer la mère si on est une fille. Mais on oublie quand même souvent le rôle du père là-dedans. C'est-à-dire que le père, lui aussi, doit se laisser tuer, doit permettre à son enfant de se construire, et donc doit abandonner quelque chose à un moment donné. Donc on le sait tous, ça. Je suis père, donc je sais bien de quoi je parle. À un moment donné, il faut laisser son gamin se tromper ou s'opposer à vous ou avoir raison face à vous. Et il faut accepter ça pour que lui grandisse. Et je trouve ça très intéressant. Oui, mais bien qu'on le sache, on commet tous...
On a du mal à le faire.
Voilà. Soit on a du mal, soit même une parole un peu déplacée ou un peu délétère ou un regard comme il ne faudrait pas à un moment donné, ou une absence de regard peut-être, ou un mot qu'on a raté, une absence de mot. Tous, en tant que parents, on le sait ça. On ne peut pas éduquer un gamin sans se tromper à un moment donné, sans commettre un petit impair délétère, entre guillemets. C'est-à-dire que, bon, voilà, qui ne va pas aider, qui va blesser. C'est pas grave si c'est occasionnel,
oui,
et si c'est pas répété.
Là, il y a quand même un manque d'amour flagrant.
Ouais, non, là j'ai grossi le trait, quoi. J'ai créé un vrai un vrai tordu, quoi. Enfin, oui, on a quelqu'un de malsain.
On parle de sévices, parfois de sévices physiques sur des enfants. Là, ce sont des sévices, de toute façon, psychologiques.
Oui, 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 très clairement. Mais j'arrive à trouver quand même des raisons au père.
Oui.
Là aussi, il faut nuancer tout. Et même lui, qui est quand même un sacré...
Oui, il se pose une question à un moment donné.
Oui, oui, malgré tout. Donc je laisse quand même cette petite porte ouverte de la rédemption possible du père. Bon, on n'y croit pas trop, mais il y a quand même, pas des excuses, mais des raisons qu'on peut lui trouver. Ouais.
Oui, et puis bon, il a choisi la voie de la force, de la violence, de la toute puissance, peut-être pour attraper ce handicap qu'il considère comme un handicap, on n'en parlera pas davantage, qui atteint sa virilité, finalement.
Oui, mais malheureusement, là aussi, c'est quelque chose qui me touche, mais souvent, j'assiste à des scènes dans la rue ou dans les supermarchés, quand je fais mes courses, de parents qui choisissent la force et la violence verbale, pas nécessairement physique, mais verbale, et psychologique, c'est-à-dire le mal psychologique. J'en vois beaucoup autour de moi, trop souvent, et j'ai du mal à ne pas intervenir en tant que citoyen, et j'avais envie aussi de pousser dans ce sens-là, et de, oui, grossir le trait, on est d'accord, mais... pour parler de ça aussi, pour dire qu'on a parfois quand même...
Il faut qu'on se regarde agir et...
Et je pense qu'on trop souvent, on considère l'adulte comme supérieur physiquement, donc moralement au gamin. Mais moi, j'ai toujours considéré qu'il ne faut pas faire à un gamin ce qu'on ne voudrait pas qu'un adulte nous fasse. Oui. Et donc, nous crier dessus comme ça, c'est facile de tomber là-dedans, et ce père-là est tombé là-dedans. Mais ce n'est pas sûr qu'il ne se pose pas de questions.
Oui, à un moment donné, on peut l'entrevoir. En tout cas, ce qui est de très émouvant dans cet ouvrage, c'est justement aussi les extraits du journal de ce garçon qui essaie par tous les moyens, et ô combien il va chercher des moyens extrêmes, qui essaie de se faire aimer, d'attirer l'attention, d'attirer l'intérêt même de son père.
Oui, je crois qu'on en est tous là. On passe notre vie à vouloir être aimé des êtres que l'on aime.
Reconnu,
bien sûr. Alors souvent, ça se fait très bien, heureusement, dans les familles normalement constituées, et notre développement en dépend beaucoup. Mais on le sait, on ne vit pas que, mais énormément à travers le regard des autres et à travers la reconnaissance des autres, et notamment celle des parents, pour commencer.
Oui. Voilà, Benoît Sévrac, un grand merci
à vous
pour cet entretien. Je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit du roman « Tuer le fils » paru à la Manufacture des Livres. Et je vous encourage à le lire parce que justement, il y a tout un éventail de rencontres, de belles rencontres. Merci,
au revoir. Merci à vous.